Radio Capi, grand témoin. Et grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Jean-Désiré Okukawa Katako Lokoo, plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République, député et même sénateur. Il est ministre honoraire et député honoraire. Monsieur Jean-Désiré Okuka, c'est un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Et donc avec vous, dans cette émission, nous parlerons de votre personne. Nous allons vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Capi. Je l'ai dit dans mon introduction, vous avez été plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République. Vous avez été aussi député et même sénateur. Vous avez été aussi à la tête de plusieurs entreprises privées et même publiques, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà. Avant de parler de toutes ces fonctions que vous avez occupées, on va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né le 13 octobre 1928 à Katakokombe, dans le Kasaï oriental.
Oui.
C'est votre village, votre territoire Katakokombe.
Territoire Katakokombe, village Mukando.
Votre nom ressemble un peu au nom du territoire.
Oui, c'était une ressemblance, mais ce n'est pas nécessairement le nom de Katako qui ressemble au territoire de Katakokombe.
Alors, votre nom signifie quoi? Okukawa Katako Lokoo.
Je porte le nom de mes ancêtres.
Ça n'a pas une signification particulière?
Non.
Et ça veut rien dire dans votre langue?
Okukawa Katako.
Oui.
Non.
Ça veut rien dire?
Non.
Alors, parlez-nous un peu de votre enfance. Vous avez grandi dans quelle conditions?
Dans les conditions comme un villageois.
Vos parents avaient une vie financière assez aisée?
Simplement, je dois vous dire que mon père était un des notables du village. Mais j'étais dans les conditions aisées, hein, mais comme villageois.
Comme villageois. Ouais, comme alors, villageois. Vous êtes issu, vous êtes le cadet d'une grande famille de 12 enfants.
Si, si. Ils sont tous partis, rappelés au Seigneur. Je suis le dernier qui vit encore, j'ai 85 ans pour le moment.
Vous n'en donnez pas l'air, vous êtes encore fort.
C'est Dieu qui rajeunit, hein, comme il est fait pour les oiseaux, les animaux aussi, mm-hmm. hein, qui ont un grand âge, sans le savoir, sans le vouloir.
Mm-hmm. Et c'est seulement Dieu, vous ne fournissez pas d'efforts?
Je vous dis sincèrement, chez moi, j'ai vu dans les conditions, je me fais une discipline très sévère, mm-hmm. personnelle, hein, dans le manger, quand je dois dormir, quand je dois me réveiller, je dois faire ceci, je dois faire cela, vraiment, je me surveille.
Pour rester toujours en forme.
Au moins, voilà. Voilà.
Alors, vous avez fait votre école primaire à 15 kilomètres de votre village.
Oui.
Donc, vous avez quitté les parents pour aller étudier à 15 kilomètres du village.
Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile puisque, à l'époque, 15 kilomètres, c'est beaucoup de kilomètres. À cause de la brousse, à cause des gens qui ne se connaissaient même pas. Même à 15 kilomètres, les gens ne se connaissaient pratiquement pas, en grande partie. Alors, comme j'étais le cadet, mon père a décidé de mettre deux grandes sœurs derrière moi pour m'accompagner à cette école-là.
Pourquoi? Il avait peur de vous laisser seul aller à l'école?
Il avait peur. Il avait peur de me laisser seul aller à 15 kilomètres à mon âge. On me dit que j'avais entre 8 à 10 ans. Pour commencer la première année de l'école primaire.
Est-ce que ce n'était pas tard? Parce qu'aujourd'hui, c'est à 6 ans qu'on commence l'école primaire. Vous l'avez commencé à 8 ans.
Ce n'était pas tard. Parce qu'on était à la recherche, d'abord, d'une école reconnue par l'État, et d'une école plus proche du village, et d'une école qui est dirigée par les missionnaires de notre église locale. Avec toutes ces conditions-là, on était à la recherche, l'âge avançant, et puis jusqu'à 8 ans, je suis tombé sur cette école-là, qui était à 15 kilomètres.
Et dans le village même, il n'y avait pas d'école?
Au village même, non.
Il n'y avait pas d'école.
Le pasteur du village donnait le catéchisme dans notre dialecte, au tétéla, mm-hmm. langue maternelle. Oui, avec ça, on ne peut pas avancer. Il fallait aller à l'école primaire organisée. Cette école n'avait que deux ans.
Et après, vous avez quitté pour aller dans une autre école?
Dans une autre école, à 90 kilomètres maintenant. Et à cette école de
toujours
deux...
Toujours avec vos deux sœurs?
Non.
Là, vous êtes parti seul.
Non, là, les parents ont cherché dans les villages voisins les autres jeunes gens comme moi qui ont commencé leur étude dans cette école de 80 km à Wembonyama. Alors, ils ont trouvé un groupe d'à peu près 5 personnes. Ils m'ont mis dans ce groupe-là pour aller à Wembonyama. Là, on restait 4 mois sans revenir à vacances. Et on faisait une année scolaire de 8 mois.
Vous avez obtenu un certificat de l'école normale méthodiste à Wembonyama, vous venez d'en parler.
Oui.
Et de Wembonyama, vous êtes parti à l'école d'administration de la force publique à Lulwabura.
Oui, là, à Wembonyama, j'ai terminé l'école primaire et j'ai commencé l'école normale pour devenir instituteur.
Mmh.
Alors, l'État est venu avec la publicité de cette école d'administration militaire pour dire que, bon, ceux qui veulent aller peuvent y aller. Ils feront 2 ans de formation et 5 ans de service militaire. Et moi, j'étais intéressé parce que je voulais devenir agent de l'administration.
Mm-hmm.
J'étais intéressé. Et on a inscrit mon nom. On a envoyé ma demande à cette école.
À
Lulwabour.
Aujourd'hui, Kananga.
Oui,
d'accord.
L'école a répondu par le
favorablement.
Canal, oui, par le canal de l'administration du territoire. C'est alors qu'on m'a envoyé pendant les vacances. On m'a convoqué à l'administration et on m'a donné un militaire et on m'a mis dans un bus pour aller jusqu'à Lusambo, après Lusambo, Kongolo et après Kongolo. Lulwabour pour participer à l'examen d'admission.
Mais votre famille n'était pas très chaude hein, de vous laisser partir à Lulwabour.
Mais ils ne connaissaient personne. Ils ne connaissaient personne. J'étais vraiment dans l'aventure pure. Hein. Ils ne connaissaient personne. Et ils m'ont traité de tout. Un enfant vraiment égaré, un enfant têtu. Ils nous quittent. Et moi, j'ai dit, je dois partir. Parce que l'État qui a fait la publicité de cette école ne l'a pas fait pour m'envoyer à la mort. J'ai expliqué à mes parents, c'est pour ça que je suis allé là-bas et j'ai réussi l'examen d'admission et j'ai continué pendant 2 ans là-bas pour obtenir mon brevet.
Et vous étiez déjà marié à cette époque-là?
Oui, avec une jeune femme de 15 ans.
Vous en aviez combien? Elle avait 15 ans et vous aviez
19 ans. 19 ans.
Bah, c'était très précoce, c'était trop tôt.
Moi, j'avais 19 ans. Je ne peux pas vous le cacher, j'avais 19 ans.
Vous étiez vraiment marié officiellement, mari, femme.
Oui, à l'église.
Vous habitiez la même maison.
Oui, marié à l'église. Vous n'avez pas d'enfant. C'est moi, quand on a commencé le service militaire, on n'avait pas d'enfant. C'est au service militaire qu'on a commencé à avoir le premier enfant.
D'accord. Alors, vous arrivez à Lulwabour. Vous faites vos 2 ans oui. d'administration.
Oui. Alors, j'ai terminé les 2 ans. Et j'étais chef de promotion. Et on m'a mis à la disposition de l'état-major général de Léopoldville. Alors, on a organisé un groupe qui devait venir ici à Léopoldville. Et moi, j'étais le chef de délégation. Et nous avons parcouru Ilebo, hein, c'était Ilebo, Port-Franqui à ce moment-là, hein, Port-Franqui, après Port-Franqui, nous sommes arrivés ici à Léopoldville, on nous a répartis on appelait ça unité d'administration, dans les bataillons, et moi j'étais à l'état-major général, et j'ai commencé mon service à l'état-major général à 49.
En 1949.
En 1949.
Dans la force publique, vous avez travaillé dans l'administration uniquement?
Non, c'est-à-dire qu'au service militaire, même aujourd'hui, il y en a qui sont de l'administration, il y en a qui sont de l'infanterie, hein, la gendarmerie, il y a plusieurs factions de l'administration. Donc moi, j'étais de l'administration. Mais
militaire, à l'administration.
Oui, côté administration. C'est ça que moi, j'ai fait. Moi, je n'étais pas de la section des armes. Même à Lulwabour, il y avait 3 sections. Pendant que moi, j'étudiais l'administration, il y avait 3 sections. Il y avait une section d'administration, où j'étais. Il y avait une section de l'infanterie, c'est la section des armes. Il y avait une section de transmission, des agents de transmission. Donc, Moi, j'ai fait l'administration jusqu'au bout.
Cette vie au sein de la force publique vous a plu? Vous avez aimé?
Je l'ai aimé. C'est pour ça que j'ai quitté l'école normale pour aller à l'école d'administration militaire. Je l'ai aimé. Nous avons beaucoup appris. Nous avons eu de l'expérience. J'ai travaillé au secrétariat particulier du commandant en chef. Ce n'était pas peu de choses. On avait des contacts avec l'administration civile, avec le cabinet du gouverneur général. On avait des contacts, c'est ce qui nous a aidé à développer tout ce que nous avons appris à l'école d'administration. Et c'est alors que le jeune Mobutu m'a rejoint là-bas. Après ses études, m'a rejoint.
Et donc vous êtes connu
à l'état-major général.
À l'état-major général.
Oui, oui. Il était de la session après moi. Quand nous avons terminé, 2 ans après, il est venu aussi, parce qu'il était un des meilleurs. Là, on n'envoyait que des meilleurs à l'état-major général. Il est venu et on a composé ensemble dans ce qu'on appelait « cercle des évolués ». Nous avons cherché à développer encore un peu ce que nous avons appris. Et nous avons commencé à nous inscrire aux instituts à l'extérieur pour apprendre la rédaction.
Okay.
Avec lui s'est inscrit en France et moi en Belgique.
En Belgique, oui.
Ouais.
Vous avez suivi des études
par correspondance
à l'Institut L'Avenir en Belgique,
en
vous l'avez
Belgique,
dit.
Oui, oui.
Et là, vous avez obtenu un certificat sur l'orthographe française.
L'orthographe française, la description française.
La description française. Et un certificat sur la correspondance commerciale française.
Oui.
Et un autre certificat de commis rédacteur à l'administration.
Voilà.
C'était vraiment votre domaine, vous étiez vraiment dans l'administration. Quoi.
Dans l'administration.
Jean-Désiré Okuka, qu'est-ce que vous détestez dans la vie? Qu'est-ce que vous n'aimez pas?
Écoutez, dans la vie, moi, je n'aime pas la négligence. Je suis habitué à faire mes choses avec ordre. Là où il y a la négligence, je n'aime pas. Le fainéantisme, je n'aime pas. Je suis pas habitué. Courageux, comme à peu près ce que vous avez dit tout à l'heure, dans ma vieillesse, on croit que je suis encore actif. Or, je suis à la retraite, mais je me bats pour me tenir debout.
Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
11 enfants, et le Seigneur a rappelé 1.
Radio Capi, grand témoin.
Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, grand témoin vous fait découvrir Jean-Désiré Okuka Wakatako Lokoho. J'espère que je prononce bien votre nom.
Lokoho, oui.
Lokoho,
oui,
oui. Ministre et député honoraire. Parlons de vos débuts dans la politique.
Oui.
De la force publique, vous vous retrouvez dans la politique. Pourquoi ce changement?
Non, je suis passé par l'administration d'abord. Hein, après le service militaire, je suis passé par l'administration.
L'administration, oui.
Et oui, on m'a recruté au ministère des Affaires étrangères. Et c'est après le ministère des Affaires étrangères que j'ai choisi de faire la politique.
Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la politique?
Bon, à un moment donné, avec le peu d'influence que j'avais, nos frères Batetel de Léopoldville ont décidé que je sois au moment où on faisait les regroupements, hein, les associations. Ils ont décidé que je sois leur président. Président de la fédération des Batetela de Léopoldville. Ça a commencé par là. Et vous voyez, quand l'autorité coloniale a organisé les premières élections dans ce pays, du temps colonial bien entendu.
C'était en 1959,
bon,
je crois.
Et on n'avait pas de parti politique. Et bien, je me suis présenté comme président de la fédération, comme notable de Kinshasa, et j'ai été élu par la communauté, conseiller communal dans la commune de Kalamu, où j'habitais.
Et puis après, vous avez été secrétaire du cabinet, puis chef de cabinet adjoint au cabinet du ministre résident en Belgique. C'est trop long comme présentation.
Albert Delvaux. Albert,
oui.
Delvaux.
Mm-hmm.
Oui.
Dans le gouvernement de Lumumba.
C'est ça, mm-hmm. Dans le tout premier gouvernement
de Lumumba.
Oui, il était nommé. Je viens de vous dire qu'il était un de mes amis aussi. Lui aussi était président des ressortissants du Kwango de Léopoldville. Pendant que moi j'étais le président de la fédération de Batetel. Donc nous étions des amis de ce côté-là.
Okay.
Dans ce qu'on appelait interfédéral, qui nous réunissait, comme aujourd'hui on parle de groupement politique. Alors.
Et c'est à ce titre qu'il vous a appelé pour aller travailler avec lui dans
son
cabinet?
Voilà, lui, il avait la chance, hein, d'être nommé dans ce premier gouvernement, et il m'a pris avec lui comme secrétaire de cabinet, et quelques temps après, chef de cabinet adjoint.
Et là, il était dans le gouvernement de Lumumba. Parlant justement de Patrice Emery Lumumba.
Oui.
On apprend que vous n'entretiennez pas de très bonnes relations avec lui.
Mais c'est le bruit qui courait comme ça. Et peut-être qu'il continue à courir, mais ce n'était pas ça le cas. Nous n'étions pas ensemble. Lui, il était à Kisangani. Et moi, j'étais ici, à Léopoldville, avant l'indépendance. Vous voyez, il était évolué là-bas. Moi, j'étais évolué ici. Il était agent de l'administration là-bas. Moi aussi, j'étais agent de l'administration ici. Bon, il avait ses activités. Il avait vraiment une grande renommée là-bas, dans une grande influence dans ces milieux là-bas. Moi, j'avais une grande influence dans les milieux ici, comme je viens de vous dire. Alors, on n'avait pas de mauvaises relations. On ne peut pas dire cela.
Mais peut-être un conflit donné, de leadership.
À un moment donné, la brasserie du Bas-Congo, qu'il a connue là-bas, l'a fait venir ici comme directeur commercial. C'est alors que nous, les Batetela, de Léopoldville, nous avons connu Patrice Emery Lumumba. Et moi, étant le représentant des Batetela ici, je l'ai accueilli. J'ai même organisé une réception pour que les compatriotes puissent le connaître. On ne le connaissait que d'influence à partir de Kisangani. Et nous avons collaboré avec lui au sein de notre fédération. Il était notre conseiller général.
Et donc tout ce qu'on raconte sur vos relations avec Patrice Emery Lumumba, soit disant que c'était des relations un peu tendues, c'est faux.
Je ne dis pas que c'est faux, puisqu'il était pris en otage par un groupe qui se disait groupe catholique. Et moi, j'avais un groupe...
Groupe protestant.
Protestant. Et alors il disait non, il ne faut pas collaborer avec les protestants. Vous voyez? Et surtout, au moment des élections, quand Patrice a gagné, le même entourage-là était jaloux de nous voir entrer dans le groupe pour le partage du fruit. Et il croyait que Patrice allait peut-être nous donner des postes plus... que ses collaborateurs.
Et donc, c'est des gens qui ne voulaient pas...
nous approcher.
Qui ne voulaient pas que vous deux, vous puissiez vous rapprocher.
Non, ils ne voulaient pas.
Ils voulaient semer la zizanie entre vous deux.
Ils ne voulaient pas. Jusqu'à ce que, vous voyez, j'ai publié dans mon livre ici, une lettre écrite à la mère de Patrice lui-même, où il ne voulait pas de tout cela. Il savait, mais il ne faisait pas cas de tout cela. J'ai publié dans ce livre que vous avez en main ici.
Alors, je vais juste rappeler aux auditeurs, c'est un ouvrage que vous avez publié, le parcours d'un grand commis de l'État au service de son pays. C'est une autobiographie, là, que vous faites de vous.
Oui. Alors, j'ai publié dans ce livre une lettre que Patrice a écrite à la main pour demander à notre communauté de ne plus continuer à nous entretuer et nous devons nous pardonner les uns les autres.
Alors, c'est bien compris, je crois que c'est clair là.
Ouais.
Après le cabinet d'Albert Delvaux, vous avez travaillé aussi comme chef de cabinet au ministère des Travaux Publics, dirigé toujours par Albert Delvaux.
C'est toujours lui, c'était le gouvernement Adoula.
Là, c'est le gouvernement Adoula maintenant.
Le gouvernement Adoula. Et on l'a appelé comme ministre des Travaux Publics.
Okay.
Et il est allé me chercher au ministère des Affaires étrangères pour diriger son cabinet. Voilà.
Alors, dans votre ouvrage, quelque part, vous dites que c'est Albert Delvaux qui vous a guidé dans vos premiers pas dans la politique.
Mais je le dis bien. Regardez, il est allé me chercher à l'administration. Moi, j'étais chef de bureau au ministère des Affaires étrangères, à la coopération internationale. Il est allé me chercher pour diriger son cabinet comme directeur de cabinet. Alors, j'ai fait avec lui de 62 à 64 dans ces ministères-là.
Et après le ministère d'Albert Delvaux, vous avez été représentant à Kinshasa du gouvernement provincial du Sankuru en 1964.
Oui, c'est-à-dire que à un moment donné, on a fait la décentralisation. C'était la première décentralisation qu'on a opérée et le Sankuru était une des provinces. On l'appelait Provincette, c'est à l'époque. Eh bien, une des provinces. Et le gouverneur de cette province-là, il est encore en vie, M. Sombou Paul, m'a appelé comme représentant de notre gouvernement ici, à Léopoldville. Il savait que j'avais beaucoup de relations ici. Il m'a nommé à ces fonctions-là. Et je l'ai exercé jusqu'au moment où on a supprimé la décentralisation.
Après la fonction de représentant à Kinshasa du gouvernement provincial du Sankuru, oui. Vous avez été coopté sénateur par l'Assemblée provinciale de la province du Sankuru. Là, c'était toujours pendant la décentralisation.
La décentralisation. Okay. J'ai été coopté sénateur.
De 64 à 67.
À 67.
Député national de 70 à 75.
À 75, oui.
Puis commissaire du peuple de 75 à 77.
Oui.
Membre de l'Assemblée régionale du Kassai Oriental de 82 à 88.
Oui.
Et après là, vous avez commencé à occuper maintenant des fonctions ministérielles. Vous étiez devenu ministrable.
Ministrable, oui. Ministrable. En 1968, que le président Mobutu m'a appelé au gouvernement, à son gouvernement, à son troisième gouvernement, après le coup d'État.
Après le coup d'État.
Oui.
Voilà, il vous a rappelé parce que vous étiez un de ses amis.
Un de ses amis, bien entendu, un de ses amis.
Mm-hmm. Vous aviez des relations quand même très liées, très proches.
Très proches. Mm-hmm. J'avais des relations très proches avec le président Mobutu et je n'ai jamais exagéré dans l'exercice de mes fonctions parce que j'étais l'ami direct du président. Vous savez où nous avons commencé avec le président Mobutu.
Dans la force publique.
Alors, chaque fois qu'il m'est nommé, je vous l'ai dit, je crois que je l'ai dit même dans mon livre ici, Jean, ne me faites pas la honte.
Et vous avez essayé de faire un effort pour ne pas lui faire la honte.
Certainement, j'ai beaucoup voyagé. J'ai occupé au moins 5 ministères.
Vous avez occupé le ministère des Terres, Mines et Énergie.
Oui.
Ministère de...
Affaires foncières.
Affaires foncières.
Mines et affaires foncières.
Ouais, Mines et affaires foncières. Commissaire d'État aux Mines et Énergie, encore une fois.
Oui.
Commissaire d'État aux postes, téléphones et télécommunications. Oui. Ministre des Affaires sociales, Famille et Solidarité nationale. C'est des grands ministères que vous avez gérés, là.
J'ai géré tous ces ministères-là.
Sans détournement, parce qu'on dit que les ministres de Mobutu étaient champions des tournements.
Eh bien, moi, je vous dis sincèrement, je suis devant vous, et vos auditeurs sont dans le monde entier, je n'ai aucun dossier de ce genre-là à la sûreté de notre pays.
Dans votre ouvrage, vous dites que c'est le maréchal Mobutu qui est votre véritable parent politique. Comment ça?
Je l'ai dit, mais vous voyez, toutes ces nominations-là, c'est lui. Il n'y avait pas de président, il n'y avait que lui, le président de la République. J'ai fait 5 ministères. Et il me disait, Jean, ne me faites pas la honte, j'ai obéi.
Et vous dites même que c'est un modèle pour vous?
Évidemment.
Alors qu'il est qualifié de tous les mauvais mots, presque dictateur, il a détourné.
Ce sont des jaloux. Sincèrement, dans ce monde, il y a personne qui est à 100%
juste.
Mais je vous dis, le président Mobutu a fait beaucoup pour ce pays. Il faut voir là où il a commencé lui aussi. Il a commencé petit.
Vous estimez que toutes ces personnes qui pensent que c'est à cause du président Mobutu que le pays est ce qu'il est aujourd'hui, qu'il est ruiné, ont tort?
Mais écoutez, ils ont tort. Ils ont tort pourquoi, maman? Notre armée aujourd'hui, je ne suis pas venu ici parler du mal ou de bien de qui que ce soit, mais notre armée aujourd'hui, vous savez les faiblesses de notre armée aujourd'hui, c'est parce que tout ce que Mobutu a fait former dans les académies militaires européennes comme américaines, ne sont plus là. On les a, par jalousie,
écartés.
On les a écartés. Et la plupart des gens qui commandent aujourd'hui n'ont jamais connu une académie militaire. La plupart, je peux dire même plus que 50%, n'ont jamais été dans une école militaire. Et qu'est-ce que Mobutu a fait? Nous avons gagné combien de guerres internes ici chez nous? La guerre de 80 jours, qui ne connaît pas ça? La guerre de Mulele, qui ne connaît pas ça? Mais aujourd'hui, on n'arrive même pas à gagner une seule guerre interne. Alors, les universitaires, Mobutu a travaillé avec les premiers universitaires de ce pays. Quand il a fait son coup d'État, il les a nommés. Il n'était pas jaloux d'eux. Et lui-même a envoyé combien de gens à l'étranger? Et nos universités ici, il a donné ce qu'il fallait comme dotation.
Alors Jean-Désiré Okuka, à vous entendre parler, on a l'impression que le président Mobutu n'a fait que des choses, des belles choses, quoi.
Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais je vous dis, dans ce monde, tous les présidents du monde, ils ont eu aussi des faiblesses. comme lui aussi, ait certaines faiblesses. Et ces faiblesses venaient d'où? Venaient de personnes, de l'entourage.
Alors, Jean Désiré Okuka, de toutes les fonctions que vous avez occupées dans
Regardez, je ne peux pas vous couper la parole. Les sociétés d'État comme SNEL, comme Régie des Eaux, de notre temps. Moi, j'étais ministre de l'Énergie. Chez nous, le mot de l'estage n'existait pas. Ça n'existait pas. Les coupures intempestives du courant.
Mais les machines ont vieilli, Jean Désiré Okuka.
Mais maman, les machines ont vieilli.
Il faut les remplacer. Et pour les remplacer, il faut de l'argent.
Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là. Nous n'avons pas de leçons à donner à ces gens-là. Ils doivent gouverner comme nous aussi. Ici, à la Gombe, ici, aujourd'hui, la Gombe est privée du courant, de l'eau. Ce n'est pas normal. Là où il y a des institutions de l'État. Et moi, je suis bien placé pour vous dire, pendant que moi j'étais ministre de l'énergie.
De l'énergie.
Coupure du courant à la Gombe. Tout de suite, mon bouton.
Vous avez un coup de fil du président. Qu'est-ce qui se passe?
Alors,
Jean Désiré Okuka, on va souffler un peu. Il vous arrive d'écouter la musique?
Merci. C'est pour me détendre un peu, hein. C'est pour me détendre ici. Mais la vieille musique, nous sommes habitués.
Les vieux succès, les anciens
les
succès.
Vieux succès, oui.
De Franco.
Oui,
Kalechev.
Oui, ça m'intéresse.
Rochero.
Ça m'intéresse. Uh-huh. Oui, Rochero surtout, ça m'intéresse.
Quelle chanson, par exemple, de Rochero?
Non, je ne saurais pas. Avec Myriam Bell, c'est bienvenu.
Et donc, je peux vous proposer n'importe quelle chanson de Rochero, ça sera la bienvenue chez vous.
Myriam Bell, oui, oui.
D'accord. Alors, la technique, on va demander à la technique de nous balancer une belle musique de Rochero et Myriam Bell.
Merci.
Pour le plaisir de Jean Désiré Okuka Katako que nous recevons aujourd'hui dans Grand Témoin.
Yeah.
témoin vous fait découvrir aujourd'hui, Jean-Désiré Okuka-Wakatako Loko, ministre honoraire et député honoraire. Vous êtes à la tête de plusieurs associations culturelles de chez vous.
Non, je dirige une ASBEL, une UNOMESCO.
Qui veut dire?
Union pour les œuvres médico-sociales au Congo. Une UNOMESCO. C'est ça que je dirige. J'ai le siège social.
Le siège est à Kinshasa ou
Le siège social se trouve dans mon fief à Katakokombe. J'ai la direction générale ici. Mais toutes les activités se trouvent à Katakokombe.
Vous faites ça pour
Évidemment pour garder, hein.
Pour qu'on vous oublie pas.
Toujours chaud, hein. Garder toujours chaud. Chaud de ma circonscription électorale. Ces gens m'ont aimé, ils m'ont encouragé.
Ils vous ont même surnommé Okuka Wakatakokombe.
Oui, oui, ils m'ont soutenu. Mm-hmm. Ils m'ont soutenu.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour eux?
Pour eux?
Oui.
Eh ben, je vous dis, pour eux, j'ai acheté d'un grand commerçant belge une grande concession là-bas, avec des immeubles que j'ai modifiés. J'ai une auberge. Vous pouvez aller à Katakokombe, vous trouverez un logement. Et vous pouvez même commander à manger, vous pouvez manger aussi. Et vous avez une salle où vous pouvez travailler.
Ça, c'est à vous, ça vous appartient.
C'est pour le peuple. C'est...
Non, est-ce que le petit peuple s'est permettre d'aller à votre auberge, commander à manger et...
Mais oui, mais je vous dis, si vous arrivez aujourd'hui, on ne peut vous conduire ailleurs que chez moi. Le logement descend. Je l'ai fait pour le peuple. C'est pour honorer mon peuple que j'ai fait cela. Qu'on ne vienne pas dire, votre fils a fait autant d'années... Hein, comme ministre, comme vous l'avez dit, député et sénateur.
Ben oui,
et qu'il n'a rien laissé, il n'a rien laissé sur le terrain.
Ouais.
J'ai laissé cet immeuble avec tous ces services, hein, dont je parle, et c'est pour honorer, pas uniquement mon nom, mais honorer le peuple qui m'a soutenu.
Oui, est-ce que vous avez aidé aussi un peu à ranger les routes, dans votre village? Est-ce que c'est praticable?
À ce moment-là. Même les ponts plus près du centre, parce que, et je suis député du centre, j'ai arrangé même les ponts à cette époque-là. Mais pour le moment, je suis à la retraite. C'est à la retraite.
Et donc, si aujourd'hui on allait à Katakokombe, on va voir les œuvres que vous avez laissées pour la population de là.
Merci.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, si vous retournez à Katako, vous serez élu?
Merci. En 2006, ils ont présenté ma candidature comme sénateur.
Mais vous n'êtes pas au Sénat?
Ça n'a pas marché. Il y avait des problèmes dans la politique parce que à ce moment-là, j'ai adhéré au PPRD et il y avait quelques problèmes à la direction. Alors ils ont décalé ma candidature.
Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite, donc vous n'êtes plus actif politiquement.
Pas actif, mais je n'abandonne pas ma circonscription électorale avec mon ASBEL là. Je suis avec eux.
Jean-Désiré Okuka, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. J'ai une petite question à vous poser par rapport à votre ouvrage.
Oui.
Qu'est-ce que vous a poussé à faire cette autobiographie de vous?
Ce qui m'a poussé, c'est laisser quand même des traces sur ce que je suis, j'ai été, j'ai fait. Et pourquoi j'ai appris la rédaction? J'ai dirigé un petit journal.
Oui, j'ai vu ça.
Comme j'étais de l'administration, je ne pouvais pas écrire dans les journaux. Simon Gouto a fait ça parce que lui n'était pas de l'administration. Hein, donc il était directement journaliste. Uh-huh. Hein, alors moi, j'écrivais derrière l'émission protestante et j'étais le rédacteur en chef. Ce qui m'a poussé, moi, c'était pour laisser une trace sur ce que j'ai été et ce que j'ai fait dans ce pays pour les générations à venir.
Or, ils peuvent s'inspirer de votre sagesse, votre savoir-faire.
La grande loi que nous avons votée dans ce pays, une des grandes lois, c'était la loi Bakajika.
Bakajika, oui.
Hein, qui remettait les choses entre les mains de l'État congolais. Tout ce que il a balayé cette loi, a balayé tout ce que les droits fonciers que l'État colonial a laissé ici. Donc, j'étais au Parlement au moment du vote de cette loi et on m'a nommé ministre quelques temps après et j'étais à l'aise pour exécuter cette loi. C'est pour ça que Je parle de concessions Réguigny, par exemple, qui était détenue par un Grec, Parc Ambize, qui était détenu par un Belge, un baron, hein, Ambize, des bonhommes, la concession des bonhommes, qui était détenue par un Belge. Hein. Donc, j'ai repris, dans les normes légales, toutes ces concessions, j'ai loti pour distribuer à la population, pas uniquement dès le Léopoldville de Kinshasa, mais ailleurs aussi, la même méthode a été appliquée partout.
Okay.
Parce que quand je dis j'ai fait 5 ministères, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il a fait dans ces 5 ministères? Et là-dedans, vous allez trouver ce que j'ai fait comme ministre des Affaires foncières, ce que j'ai fait comme ministre des PTT, ce que j'ai fait comme ministre de l'Énergie. En bref, en résumé, les voyages que j'ai effectués comme député, les activités que j'ai menées. Par exemple, j'étais au Japon dans une réunion interparlementaire. J'ai eu même à prononcer un discours au Parlement japonais. Ce discours émanait de notre Parlement ici. C'était un message du Parlement du Zaïre. En ce moment, c'était le Zaïre, du Parlement du Zaïre au Parlement japonais.
Alors, vous aviez plusieurs distinctions honorifiques, Jean Désiré Okuka.
Oui.
Médaille d'argent du mérite conjugal, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que, au moment où j'ai fait 25 ans, mais aujourd'hui où je vous parle, j'ai 52 ans de mariage. J'ai mon épouse, on a fait 52 ans de mariage.
Alors, en passant, on salue votre épouse, c'est madame...
Okuka.
Okuka.
Omoyi.
Onya.
Katunga.
Oh là là, son elle a un nom.
Elisabeth.
Alors, madame Elisabeth Okuka, bonjour. En direct de Radio Okapi.
Merci. Donc, vous voyez, c'est pour laisser trace de ce que j'ai fait. Je l'ai dit aussi, là-dedans.
Et commandeur de l'ordre national des léopards,
oui.
Grand officier de l'ordre national des léopards,
oui.
Commandeur de l'ordre du mérite sénégalais.
Oui.
Sénégalais.
Lorsque le président Senghor,
ouais.
est venu ici en 1969, j'étais ministre de Terre, Mines et Énergie. Il a donné plusieurs conférences ici, et c'est alors qu'il a nommé les ministres de cette époque, dans cet ordre-là, du mérite sénégalais.
Est-ce que vous avez mérité ça ou c'était juste pour faire plaisir au président Mobutu?
Ce n'est pas pour faire plaisir, c'est pas pour faire, parce que moi j'étais ministre à l'époque. Quand il est venu, visiter le Congo, certainement pour la première fois, et vous connaissez Senghor, ce qu'il était, ce grand savant-là. Alors, s'il a donné cette médaille aux membres du gouvernement de Mobutu, eh bien, c'était pour honorer d'abord le pays et Mobutu qui était l'ami de Senghor et les membres de son gouvernement. Nous l'avons mérité.
Alors, un dernier mot à tous ces auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, Jean Désiré Okuka. Vous leur dites quoi? Vous dites quoi à votre circonscription de Katakokombe qui vous suit en ce moment?
Ma circonscription de Katakokombe, je remercie encore une fois ma circonscription pour m'avoir gardé la confiance jusqu'à ces jours. Et moi, je reste de leur côté aussi jusqu'à ces jours. Donc, ma circonscription de Katakokombe, je continue à les remercier jusqu'à la fin de ma vie pour m'avoir soutenu dans mes actions. Et c'est pour ça que j'ai créé cette ASBL pour garder contact avec eux.
Mm-hmm.
Et vous voulez que je salue en langue maternelle?
Oui, en langue maternelle.
À ce Katakokombe tché, nye kolombo kami unyoso, la mounyusha moyo, la munyusha lusaka lukeneche kakanya chaka lukumbula kimi sankuru kutunduche dimindo ukulu utradikambo nyaka kimanye lushia kimi ya deputation kane ya sena kane ya gouvernement la kila soutien tse lea si sankuru ntu jikalika lea si Katakokombe lusaka Lusaka, Nzambanyo Chokole.
Vous leur dites bonjour et puis vous leur dites votre ancien député, sénateur, ministre.
Oui, oui.
Et que Dieu vous bénisse, un peu près oui, du genre.
Oui, dans toutes ces fonctions, ils m'ont soutenu. Dans toutes ces fonctions, député, sénateur, ministre, ils m'ont soutenu. Tout le Sankuru, les chefs coutumiers comme la population, la jeunesse comme intellectuelle, et vraiment je remercie tout le monde.
Alors nous aussi, on vous remercie, Jean-Désiré Okuka wa Katako Loko. Je rappelle encore une fois que vous êtes député et ministre honoraire. Vous avez occupé plusieurs fonctions pendant la Deuxième République. Aujourd'hui vous êtes à la retraite, moins actif. Et vous observez ce qui se passe dans le pays.
Je vous remercie. Si je ne peux pas partir sans remercier la Radio Okapi pour la confiance que vous me faites pour m'inviter ici, parler de moi, de mon pays. Et je reste ouvert. Vous pouvez m'appeler encore une fois, je reviendrai pour un autre chapitre.
Merci beaucoup, Jean-Désiré. C'est la fin de cette émission. Je rappelle à tous nos auditeurs que je recevais Jean-Désiré Okuka wa Katako Loko, ministre et député honoraire. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique au micro Kelin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.